après-midi. Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara, avec trois publications formidables. Le premier, c'est un immense coup de cœur. Le roman de Barbara Kingslover, On m'appelle Damon Copperhead. C'est un roman publié chez Albin Michel, traduit de l'américain. C'est cette merveilleuse collection Terre d'Amérique. Alors, l'auteur, née en 1955, est une des grandes voix de la littérature américaine contemporaine. Pour ceux qui l'auraient lu, L'arbre aux haricots est peut-être son titre le plus célèbre. Et pour ce roman, pour On m'appelle Damon Copperhead, elle a reçu le prix Pulitzer 2023 ex aequo avec Trust de Herman Diaz, que j'avais présenté il y a quelques mois, ainsi que le Women's Prize for Fiction. Alors, Damon Copperhead est orphelin et je vous lis un premier extrait qui parle de sa situation. Comme un petit boxeur tout bleu. Ce sont les mots qu'elle prononcerait plus tard. Pas gênée du tout de discuter de la pire journée de la vie de ma mère. Et si c'est l'impression que j'ai faite aux premières personnes qui ont posé les yeux sur moi, je prends. Pour moi, ça veut dire que j'avais ma chance. Pas gagnée, oui, je sais. Si une mère est vautrée dans sa pisse et ses cachetons pendant qu'on donne des claques au gamin qu'elle a éjecté en lui disant d'avoir l'air vivant, le gamin en question est probablement condamné. Enfant de junkie, junkie aussi. En grandissant, il va devenir tout ce que tu veux pas connaître. Dents pourries, regard de zombie, la galère d'avoir à planquer son matos dans le garage pour qu'il se fasse pas la malle, le motel loué à la semaine, le tapis bien à l'écart de la route touristique. Ce gamin, s'il voulait avoir une chance de goûter aux belles choses, il aurait dû se faire livrer chez une mère riche et intelligente, ou chrétienne, en bref, une mère clean. Tout le monde vous le dira. Les enfants de ce monde sont marqués dès la sortie. Tu gagnes ou tu perds. Sauf que moi, j'étais née pour croire aux super-héros. Mais est-ce que ce genre de métier existait dans notre univers de mobilhome? Est-ce qu'ils s'étaient tous barrés de Smallville en quête de plus gros coups? Sauvés ou être sauvé, voilà la question. T'as envie de penser que rien n'est bouclé avant la dernière page. Né d'une mère toxicomane, il n'a jamais connu son père et grandit dans une caravane au fond d'un jardin, élevé davantage par ses voisins que par sa maman. Et à la mort de sa mère, il est placé en famille d'accueil. Il y connaît les pires misères, exploité, brutalisé, mais au moins, il n'est pas seul. Il souffre, décroche de l'école, mais il a une famille ou, en tout cas, quelque chose qui s'en rapproche. Dans ces conditions, sans guide, comment ne pas sombrer? Et je vous lis le deuxième extrait. Un gamin de 10 ans qui se défonce au cacheton. Pauvre môme. On est censé dire « Regardez-les, ils ont fait de mauvais choix. Qui les a conduits à une vie de misère ?» Mais des vies se vivent là, en cet instant précis, se glissent entre les brossez-vous les dents, bonne nuit les petits et les chariots de supermarché remplis à ras-bord où ces mots n'ont pas cours. Des enfants, des choix. Ils étaient déjà pourris, les matériaux avec lesquels on devait construire notre vie. Notre seul repère, c'était un garçon plus âgé qui n'avait lui-même jamais connu la stabilité et qui essayait de nous rassurer. On avait la lune à la fenêtre pour nous sourire un instant et nous dire que le monde nous appartenait, parce que nos parents s'étaient tirés quelque part et avaient tout laissé entre nos mains. Et malgré tout, cet enfant, en grandissant, est doté d'une lucidité particulière. Il tente de comprendre les mécanismes de l'addiction. J'en avais du chemin à parcourir avant de comprendre que ça n'est pas si simple, la cam versus la personne que tu aimes. Que le manque peut monter en pression à l'intérieur d'un corps et d'un esprit, en même temps que la capacité physique à tolérer sa drogue préférée diminue toujours plus. Et plus tu as passé de temps à souffrir entre deux prises, plus tu as de chances de chercher les étoiles trop haut la fois d'après. ton premier gros rush de soulagement pourrait bien être le dernier. À force, c'est comme ça que j'en suis arrivée à voir maman à la fin. Tendue de toutes les forces de son petit corps, à essayer de toucher le bleu du ciel, à chercher un peu de paix. Et à la trouver. Si ma version adulte avait la possibilité de parcourir cette histoire à l'envers, une partie de moi aimerait s'asseoir sur ce banc, au fond de l'église, près de ce gamin en colère, avec ses habits trop petits pour lui, son air renfrogné à la Dark Walk, et lui dire « Tu crois que t'es un géant ? Mais t'es qu'un petit grain de poussière dans ce monde pourri. Tout ça n'a rien à voir avec toi. » Damon Copperhead, ben c'est le David Copperfield de l'Amérique contemporaine, cas social, drogué, rejeté. Damon a aussi sa chance. Après la succession de maisons où il est placé et exploité, il va retrouver sa grand-mère, la mère de son père, et elle se montre prête à l'aider. Confié à coach, entraîneur de football légendaire, il trouve une famille, reprend les études, devient un espoir du football, développe son don pour le dessin grâce à une prof dévouée et engagée. Une mauvaise chute brise net sa progression spectaculaire en sport, mais surtout, mal soignée, elle le fait plonger dans le soulagement éphémère des cachets, des opioïdes, pour lesquels il va abandonner tout le reste. La vie de Damon ne connaît que des extrêmes, des espoirs et des revers, des aspirations et des échecs. Contre la fatalité, il lutte avec une sorte d'instinct de survie formidable, de volonté absolue de s'en sortir. Et le livre raconte cette succession de tentatives, les échecs, mais dont il essaye chaque fois de se relever. Face au gouffre qui le menace à chaque chute, la force de la famille Peg, généreux, vrai, modèle pour la communauté et pour lui en particulier. Et je vous lis le dernier extrait qui raconte l'enterrement de Monsieur Peg. Le service religieux était tellement différent de celui de maman. Le pasteur, il connaissait Monsieur Peg, genre vraiment. Il nous a raconté plein d'histoires sur lui et les gens étaient bien présents. Pas en train de claquer la porte de leur cœur sur ce pauvre mort, mais riant et pleurant sur toute une vie. D'abord, les farces de gamins, comme la fois où M. Peg a introduit un veau dans l'école avant de l'enfermer dans le bureau du principal. C'était un meneur qui entraînait les autres à tirer au lance-pierre les raisins de Judée à l'arrière de cette même église, laissant sur les bardeaux blancs des éclaboussures rouges qui ressemblaient à des impacts de balles. Puis meneur à nouveau, quand il s'est agi de repeindre l'église. Les farces d'adultes aussi, comme le jour où M. Peg et le père de ce pasteur avaient chaviré sur le lac de Carfork, qu'ils avaient tous deux prétendu avoir sauvé l'autre de la noyade. Et cependant, M. Peg avait bel et bien sauvé la vie d'un homme, aucun doute là-dessus, alors qu'ils étaient en train de castrer des taureaux. Je ne savais rien de tout ça. La personne qui l'avait sauvé était la grand-mère de Don Marie. L'idée générale de ce sermon était de montrer comment les gens sont liés de diverses manières, visibles et invisibles. Et M. Peg avait tissé beaucoup de liens dans le gros filet à poissons qui nous tient tous ensemble. Mort, mais toujours là, en d'autres termes. C'est ce qui m'a fait le plus mal. À l'enterrement de maman, le cercueil s'était refermé sur elle et c'était terminé. Ce qu'on savait encore de bien sur elle, s'il en restait quelque chose, ça reposait sur moi et j'étais trop en colère pour en faire quoi que ce soit. Je m'étais même moquée de la façon dont elle dansait. Passionnant et fort, le roman de Barbara Kingslover se lit d'une traite malgré les 600 pages. Il mêle la grande tradition du roman d'apprentissage, ce portrait des classes les plus précaires, d'une Amérique reculée, condamnée par la pauvreté, le racisme, le manque d'éducation et la drogue. Et pourtant, malgré cette réalité sordide, le roman qui revisite, je vous le disais, l'histoire de David Copperfield, le sort des orphelins et des enfants placés, qui sont les premières victimes de cette crise des opioïdes, eh bien, malgré tout, ce roman est porté par une force vitale et un souffle d'espoir et de vie. C'est donc « On m'appelle Damon Copperhead », c'est chez Albin Michel, le dernier roman de Barbara Kingslover, je vous le disais, prix Pulitzer 2023 et Women's Prize for Fiction. Alors, dans un tout autre registre, même s'il est aussi question d'un petit garçon, c'est le texte de Louis Durau, « J'ai raté le train d'Auschwitz » et c'est publié chez Istia et compagnie. Alors, Louis Duroux est né dans une famille de juifs français et laïcs en 1943. Louis et ses parents vivent en zone libre et sont arrêtés quelques jours avant Noël à la suite des ordonnances de Laval. Par un coup de chance absolument extraordinaire, les Allemands décident de reporter l'opération de quelques jours pour après Noël. La famille Duroux ne prend aucun risque et ils entrent immédiatement dans la clandestinité. C'est l'extrait, le premier extrait que je vous lis. Mon père était un ingénieur, mais aussi un excellent dessinateur technique. C'est à ce titre qu'il participait à un réseau de faux papiers. Et c'est comme ça qu'il a connu les personnes qui lui ont indiqué de bonnes planques. Il avait à l'école des qualités humaines, à l'époque, pardon, des qualités humaines qu'il perdrait totalement à la fin de la guerre. Non pas qu'il soit devenu méfiant ou peureux, non. C'était plutôt une sorte d'indifférence aux autres qui faisait bafouer toutes ses interactions sociales. Ils ont trouvé 4 endroits différents pour nous cacher. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. Nous sommes restés séparés pendant près de 2 ans et je ne sais pas si on s'est jamais vraiment retrouvés. On avait raté notre train pour Auschwitz, phrase qui donc est reprise comme titre du roman. Et comme beaucoup de petits-enfants juifs, Louis va être confié aux bons soins d'une dame, et dans son cas, c'est Madame Guizol. Ils sont 14 enfants. Alors on ne s'occupe pas beaucoup d'eux, c'est plutôt chacun pour soi. On lui a bien dit qu'il ne doit pas parler quand on l'interroge, mais il a 4 ans et demi et il ne comprend pas très bien le sens de cette recommandation. Parfois, écrit-il, on les aperçoit dans le village, les hommes en imperméable noir, qui pourraient nous poser ces questions-là. Mais ils ne m'ont jamais adressé la parole et dans tout le village, personne n'a parlé de nous, ni de moi, ni des 13 autres enfants de chez Madame Guizol, la gardienne de chèvres. De toute façon, je n'aurais rien dit. Des parents, je croyais que j'en avais plus, que j'étais abandonnée, comme les autres. Quand ils sont revenus me chercher 2 ans plus tard à Maganiosk, je n'ai pas compris que c'était eux mes parents. Je ne les ai pas reconnus. Ils m'ont dit « c'est papa et maman ». Ils ont recommencé à s'occuper de moi, comme le font des parents, me donner à manger, m'habiller, me coucher. Alors j'ai fait comme si, toute ma vie, cette impression étrange est restée. Ils étaient venus jusqu'à Maganiosk pour m'adopter. Après la guerre, Louis va retrouver une vie normale, pourrait-on dire. Curieux, passionné de lecture, il excelle littéralement à l'école. Dans toute la vie, tout terne de ma mère, il y avait un jour qui rachetait tous les autres, la distribution des prix. On m'en a refilé pas mal. Ce jour-là, elle se tenait debout dans la salle de classe où la cérémonie se déroulait. Et quand j'étais appelée pour recevoir ma récompense, le nuage de tristesse qui la suivait partout s'évaporait. Ses yeux se plissaient, sa poitrine se bombait. Elle avait l'air d'une femme mongole emplie de fierté pour le guerrier qui a massacré l'ennemi. Elle le retenait à peine sur ses lèvres, le « c'est mon fils » de la mère juive. Mais au lycée, les choses deviennent plus compliquées et Louis se sent à l'étroit. Rien à faire. Le prof voulait des élèves silencieux qui grattaient le papier et moi je me butais irrépressiblement. Il m'était physiquement impossible d'accomplir une action que je jugeais absurde. Plus que l'antichambre de la vie, l'école, le lycée ont été pour moi la version adolescente du camp de prisonniers. Obéissance silencieuse, contrainte pesant sur chaque geste, il n'y avait qu'un chemin de l'élève au maître, la soumission. Alors j'ai choisi d'évoquer deux moments encore dans ce récit de vie qui raconte une quête de soi à travers toutes sortes d'expériences dans lesquelles il va se lancer avec curiosité, sans a priori moral. Un cheminement intellectuel aussi qui passe par l'engagement politique, par une réflexion sur son identité juive. Après la création de l'État d'Israël, il décrit un changement de regard au moment de la guerre du Sinaï. Pour mes grands-parents et mes parents, le sionisme, ce n'était qu'une roue de secours et Israël, la possibilité d'un refuge où s'enfuir pour échapper au harcèlement, à la chasse aux juifs, qui jamais ne cesse pour de bon, qui toujours peut reprendre. Et soudain, il apparaît que les Juifs ne sont plus des fugitifs, de vulnérables apatrides. Dans leurs veines coule ce même patriotisme qui fait la fierté des Français dans les années 50. On voit ainsi de jeunes Français, pour la plupart issus de familles juives pieds noirs d'Algérie, mais aussi, comble du comble, certains non-juifs, se présentaient derrière le parc Monceau, aux trois rues Rabelais, où s'est établie la toute jeune ambassade israélienne, se porter volontaire pour aller se battre à leur côté. Il aura fallu qu'Israël fasse la guerre pour que vacille l'antisémitisme. Israël se montrait prudent, puissant, conquérant, dominateur, dira de Gaulle. Les Juifs savent donc faire la guerre, eux aussi. Ils utilisent, comme tout le monde, la violence pour servir leurs intérêts. Ainsi, ce sont des hommes. On mesure le gouffre dans la perception d'Israël depuis l'époque. Enfin, une quête, je vous le disais, une quête qui va finalement lui permettre de découvrir sa vocation. Avec la fréquentation d'artistes, la découverte de leurs expériences, la révélation face aux installations poétiques et éphémères de Christo et de sa compagne Jean-Claude. Et je vous lis le dernier extrait. « Moi, j'étais tombée sur quelque chose qui me claquait le beignet. J'étais en contemplation. Je me disais bien qu'il y avait des types comme ça qui devaient exister quelque part. C'était eux que je cherchais dans tout ce tumulte. Je les ai écoutés des soirs entiers dans les bistrots. J'ai hanté leurs ateliers, j'ai parcouru avec eux des décharges, des cimetières de voitures et des entrepôts de ferrailleurs. Je les ai aidés comme j'ai pu. » Et voilà, c'est ainsi que commence son parcours d'artiste, un parcours unique, atypique, un récit tourné vers la vie qui se veut sincère, lucide et farouchement indépendant. C'est donc celui de Louis Duroux, « J'ai raté le train d'Auschwitz », je vous le disais, c'est publié chez Istia et compagnie. Et puis, un troisième roman, alors là on change complètement de style, c'est « Obsolète » de Sophie Loubert, publié chez Belfond Noir. C'est un roman dystopique et une enquête policière. Obsolète nous projette dans un futur qui rappelle un petit peu le roman pour adolescents de Loïs Lory, Le Passeur. Hein, ce roman fabuleux qui imagine un monde futur sans émotion, puisque ainsi on supprime toute douleur. Alors le monde futur imaginé par Sophie Loubière est hyper technologique. Un bracelet régule les émotions en permanence, injectant des substances nécessaires pour conserver une attitude apaisée et un moral toujours positif. Maya, l'IA domestique, contrôle tous les aspects du quotidien, répond à toutes les questions, analyse les problèmes, se charge de distraire, d'apaiser et surveille discrètement le bon déroulement du quotidien de chacun. De l'autre côté, la conséquence du grand effondrement de notre exploitation anarchique et forcenée des ressources de la planète a imposé aux humains la nécessité d'un mode de vie basé sur le recyclage, où les gens se déplacent à vélo, cultivent les légumes et les fruits dont ils ont besoin dans leur jardin, réparent et recyclent. Mais le projet majeur de ce 23e siècle, c'est la surpopulation féminine. Et je vous lis le premier extrait. La surpopulation féminine crée un déséquilibre structurel. Loin devant la bombe nucléaire, les grands dictateurs de l'histoire et l'impact calamiteux des microplastiques sur la fertilité masculine, à notre tour, sans le vouloir, nous étions devenus le péril de la race humaine. Le grand recyclage rétablissait l'équilibre, notre retrait favoriserait la naissance de petits mâles, sans pénis, atrophiés si possible, et nous grandirions fiers de nos futures vies raccourcies. Et un petit peu plus bas, nous serions dédiés à notre fonction matricielle, à l'instruction de tous les enfants de la communauté, à notre famille, notre préparation psychologique et physique, notre complicité, notre relation relative bonne santé nous y aideraient. Nous serions des athlètes de la reproduction, capables de tout contrôler. Sexualité, émotion, éducation, transmission, insémination, fausse couche. Maya nous borderait le soir comme Jadine Homère et dès la puberté, un bracelet à notre poignet nous préserverait de nos humeurs. La seule interrogation était de savoir s'il fallait choisir ce dernier de couleur claire ou foncée, opaque ou transparent. Aucune d'entre nous ne songeait à ce que cet objet connecté modifierait de nos comportements et de nos pensées, à ce combat permanent contre soi qu'il engendrerait pour ne pas laisser nos hormones régenter notre existence au risque d'abraser nos traits de caractère et de nous affadir. Dès lors, à 50 ans, les femmes reçoivent leur avis de mise au rebut. Et elles vont participer à ce grand recyclage, partir pour ce qu'on leur vend comme un séjour enchanteur, bien mérité, après une vie de travail dans les hautes plaines. Je vous lis le second extrait. Les gouvernances territoriales s'étaient longuement concertées. L'idée leur était alors venue de ventiler les femmes en surplus d'une autre manière. Un homme fonderait deux familles, mais successivement. Il partagerait avec sa première épouse entre 20 et 30 ans de sa vie, et lorsque celle-ci ne serait plus en capacité de procréer, on lui en fournirait une autre. En cas de décès prématuré de sa deuxième compagne, un veuf en bonne santé et dont les données de spermatogramme indiquaient un taux suffisant de spermatozoïdes alerte au moment de l'éjaculation serait encouragé à fonder une troisième famille. Dès lors, les enfants, jusqu'alors élevés dans un climat conflictuel, cessaient d'être manipulés ou instrumentalisés. Moins de frustration affective, de jalousie, de rejet, une séparation définitive plus douce, l'amputation se faisait presque sans douleur. L'autre avantage de cette option était lié à l'état de nos ressources. La planète ne se repeuplait pas trop vite, mais proportionnellement à ce qu'elle était en mesure de fournir pour nourrir le reste de l'humanité. Parmi ces femmes, Rachel. Rachel qui s'apprête à quitter son univers, ce qu'elle aime, son travail, en même temps que plusieurs amis qui ont le même âge qu'elle. Ces femmes sont préparées depuis leur plus tendre enfance à ce départ. Maya modela patiemment notre langue et notre imaginaire pour y enchâsser l'expression et le concept. D'abord, en injectant le terme à petite dose dans les messages informatifs. Il était essentiel de nous habituer à l'entendre. Il fallait normaliser, nous acclimater à sa présence dans un langage quotidien. L'effet de répétition dégradait notre vigilance. Si un mot isolé pouvait choquer, provoquer une réaction, la ritournelle entournée par l'IA amoindrissait notre capacité à réfléchir et rendait la chose jolie. L'expression n'étant plus perceptible ni même perçue, elle devint banale, presque familière. Maya en usait sans abus, mais l'imposait à nos oreilles à toute heure du jour, favorisant un phénomène d'essoufflement des consciences face à son matraquage. À force d'entendre le même énoncé depuis des générations, notre esprit critique s'était persuadé de la validité du message. Le grand recyclage était une étape de la vie, celle d'un passage vers une autre source de joie. Un horizon de lumière et de tous les possibles, et je sais aujourd'hui précisément ce que ça veut dire pour 34% d'entre nous. Mais malgré cet endoctrinement précoce, Rachel est déprimée et angoissée. Dans cette société où tout est contrôlé, y compris les émotions, ou peut-être surtout les émotions, la découverte du cadavre de trois petites filles fait l'effet d'une bombe. Les ajustements hormonaux, l'éducation à l'empathie ont fait disparaître toute trace de violence. Dès lors, comment expliquer ce qui s'est passé? Les meurtres ont disparu, la mort est contrôlée, au point que la médecine légale a disparu. Le lecteur suit donc deux intrigues en parallèle. Les préparatifs au départ de Rachel et de ses amis, appréhension, doute, et puis l'enquête de l'autre, menée de manière non officielle par Keen, archéologue, le seul qui semble comprendre l'importance d'étudier le passé pour mieux préparer le futur, le seul capable de comprendre les traces du passé, quitte à déjouer la surveillance de l'intelligence artificielle. Mais même face aux preuves, il est peu probable que les membres du Conseil acceptent de tenir compte de ces recommandations parce qu'elles dérangent leur certitude. Un roman intelligent, particulièrement sombre, quant à l'avenir qu'il prévoit, les rapports humains qui en découlent, cette société basée sur le contrôle qui s'épanouit, c'est Obsolète de Sophie Loubert et c'est chez Bellefond Noir. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.